transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours. Nous allons commencer cette émission avec vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter, pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et bien surtout, n'hésitez pas, rejoignez-nous, appelez-nous. Le standard est d'ailleurs ouvert tout au long de la journée. D'ailleurs, on a besoin de préparer en amont cette première partie. Contactez évidemment nos experts ici au sein de la rédaction, mais aussi nos correspondants, nos envoyés spéciaux à travers le monde. Vos questions, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous nous postez également vos questions sur la page Facebook de l'émission. Dans 30 minutes, un débat, comme tous les jours, et tout à l'heure, nous parlerons de la gouvernance en Afrique, avec en toile de fond la publication très attendue du rapport annuel de la Fondation Mo Ibrahim. 52 États sont passés au crible, et pour évaluer la performance de chaque pays, la Fondation s'appuie sur 95 indicateurs. Alors cela va de l'indépendance de la justice à la transparence des élections, en passant par l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, la qualité de l'enseignement, ou encore le respect des droits de l'homme. Alors comment percevez-vous la gouvernance? Votre pays vous semble-t-il performant? En tout cas, cette année, comme d'ailleurs l'année dernière, l'île Maurice, le Cap-Vert et le Botswana sont les meilleurs élèves. En revanche, la Somalie est dernière du classement devant la Centrafrique, l'Érythrée et le Tchad. Vos témoignages, vos commentaires, 33 9 693 693 70. Et le débat se déroule déjà sur la page Facebook de l'émission. Vos questions, on va s'intéresser d'abord au mouvement de contestation à Hong Kong. Lamine nous appelle de Guinée. Bonjour Lamine.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI, la radio mondiale.
Alors, des questions sur les manifestations à Hong Kong, on vous écoute.
Monsieur Juan Gomez, j'ai appris sur les ondes de RFI, il y a des manifestations à Hong Kong. J'ai deux questions par rapport à ça. La première est de savoir quel est le statut particulier de Hong Kong par rapport aux autres villes chinoises qui permet à la population de manifester. La deuxième question, quelles sont les revendications des manifestants?
Alors, des manifestants qui sont encore très nombreux aujourd'hui, hein, plusieurs dizaines de milliers, à occuper les rues de plusieurs quartiers de Hong Kong pour réclamer des réformes démocratiques. Emmanuel Rebaud, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Lamine.
Merci d'être avec nous Emmanuel, vous êtes journaliste au service international d'RFI. C'est vrai que par rapport aux autres villes chinoises, on peut être surpris de voir autant de monde dans la rue manifester, contester le pouvoir. Hong Kong a un statut spécifique.
Oui, Hong Kong est un territoire un peu particulier. En fait, c'est un tout petit territoire qui est situé sur la côte sud de la Chine, mais c'est aussi la ville la plus riche du pays avec une économie ultra-libérale. Donc pendant plus de 150 ans, ce territoire était une colonie britannique jusqu'en 1997, date à laquelle la Grande-Bretagne l'a rétrocédé à la Chine. Hong Kong est radicalement différente du reste de la République populaire de Chine puisqu'elle obéit au principe un pays, deux systèmes, c'est-à-dire que depuis 1997, c'est la Basic Law qui s'applique, c'est une loi fondamentale qui garantit en fait une grande autonomie à cette enclave libérale, à savoir des pouvoirs exécutifs, législatifs et une justice indépendante. Mais elle garantit aussi les droits fondamentaux de la population, leur permettant ainsi de manifester, comme aujourd'hui.
Ouais, et ils manifestent depuis maintenant 5 jours. Le système politique de Hong Kong est lui aussi un peu particulier.
Oui, effectivement, on peut parler de particularité, Juan. Le chef de l'exécutif est élu pour 5 ans par une assemblée législative qui, elle, est désignée par le gouvernement central de Pékin. Et c'est ce point précis que remettent en cause les manifestants pro-démocratie. En fait, la loi fondamentale prévoyait qu'en 2017, les habitants de Hong Kong pourraient élire au suffrage universel leur prochain chef de l'exécutif. Mais le pouvoir central est revenu sur ce principe et a réaffirmé en juin dernier la souveraineté de la Chine sur Hong Kong. Et d'ailleurs, c'est à ce moment qu'a débuté la mobilisation.
Oui, les démocrates et une partie de la population qui s'est donc sentie flouée, d'où cette forte mobilisation. Je le disais tout à l'heure, ils réclament des réformes démocratiques, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
En fait, donc, comme souvent, le mouvement pro-démocratie est surtout mené donc par les universitaires, des professeurs, des étudiants. Mais en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'un très grand nombre de personnes venant d'horizons différents se sont depuis ralliées au mouvement. Les manifestants donc demandent tout simplement l'instauration de la démocratie, c'est-à-dire le suffrage universel direct, afin d'élire leur chef de l'exécutif. car en fait, même si Hong Kong a une autonomie réelle, son système politique est bel et bien sous la tutelle du gouvernement chinois. Il demande aussi par la même occasion la démission du chef actuel de l'exécutif, Leung Chun-ging, qui a directement menacé le mouvement pro-démocratique et pacifiste que l'on appelle Occupy Central Love and Peace.
Ouais, alors aujourd'hui, Emmanuel, c'est un jour important puisque c'est la grande fête nationale, l'anniversaire de la fondation du Parti communiste qui est bien sûr aussi célébré à Hong Kong. On a vu tout à l'heure ces images de levée de drapeau, une cérémonie qui a pu avoir lieu tout de même, qui s'est déroulée sans incident, même si les contestataires ont sifflé lorsque l'hymne national a retenti. En tout cas, tous ces manifestants dans la rue aujourd'hui même, ça risque un peu de gêner le gouvernement central.
Oui, c'est sûr, d'autant que le mouvement ne faiblit pas. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues. Et aujourd'hui, nous verrons d'ailleurs quelle attitude adopteront les autorités chinoises. Mais en fait, on s'attend à une très très grande mobilisation. Il faut savoir que le week-end dernier, les forces anti-émeutes ont chargé la foule avec des matraques et des gaz lacrymogènes. Mais elles n'ont pas du tout réussi à décourager le mouvement. Depuis, elles se sont retirées en signe d'apaisement.
À suivre donc l'issue du mouvement, il y a plusieurs scénarios possibles.
En fait, c'est très difficile à dire pour l'instant. Il est clair que Pékin craint une contagion du mouvement pro-démocratie qui vient de la société civile. Et d'ailleurs, depuis le début de la contestation, les autorités chinoises font tout pour censurer les images qui viennent de Hong Kong. Alors le pire scénario serait l'intervention de l'armée chinoise, mais cela semble quand même assez peu probable car Pékin souhaite garder sa place sur la scène internationale. Et en même temps, on voit mal comment elle pourrait céder aux revendications des manifestants. En même temps, il est difficile d'imaginer que les étudiants qui sont les moteurs du mouvement se satisferaient d'un entre-deux. Donc bref, pour l'instant, la situation est bloquée.
Statu quo donc. Merci Emmanuel Rebaud d'être venu répondre à Lamine qui nous appelait de Guinée, 10h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Toutes vos questions nous intéressent, donc n'hésitez pas, vous nous rejoignez. 339-693-693-70. Olivier Four, qui est le spécialiste des questions militaires à RFI, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous a demandé de venir car on a reçu des questions concernant les casques bleus tchadiens déployés au nord du Mali. Vous revenez d'ailleurs du Mali, vous y étiez encore quelques jours. Vous étiez aux côtés des militaires maliens et français. Bonjour Cyril.
Bonjour Juan.
Bon, on vous écoute, vous êtes à Yaoundé au Cameroun.
D'accord, je suis à Yaoundé, j'ai des questions. Et dernièrement, j'ai entendu dire à RFI que l'armée tchadienne est menacée au Mali. Mmh. Alors, j'ai deux questions à ce sujet. La première, quel est le rôle de l'armée tchadienne au sein de l'AMINUSMA? Est-il important?
Oui.
Et la deuxième, l'armée tchadienne peut-elle se retirer du Mali? Et quelles en seraient les conséquences?
Ah, l'armée tchadienne, pardon, peut-elle se retirer de la MINUSMA, la force onusienne? C'est une bonne question. Olivier Four, c'est vrai que on a assisté il y a 8 jours au coup de gueule, au coup de colère du gouvernement tchadien contre la force onusienne, puisque ces dernières semaines, 10 casques bleus tchadiens ont été tués dans le nord du Mali. Et c'est vrai que dans cette lutte contre les groupes islamistes armés, le Tchad est véritablement en première ligne.
Oui, c'est vrai. Et puis ça date pas d'hier. Il faut rappeler que à l'origine, les éléments tchadiens étaient intervenus directement pour épauler l'armée française, la force Serval dans la reconquête du Nord Mali, et que ces Tchadiens avaient su faire preuve de grandes qualités guerrières, particulièrement lors de la bataille de la Mététaï. On rappellera par ailleurs qu'ils avaient payé un lourd tribut à ces opérations début 2013, puisqu'ils avaient perdu en quelques mois près d'une quarantaine de soldats, et plus de 80 soldats tchadiens avaient été blessés dans les premiers mois de 2013. Ensuite donc, ils sont entrés dans la force africaine, qui est devenue ensuite la force onusienne, mais les Tchadiens, on l'a dit, ont souvent été visés par des attentats ou des mines anti-chars, particulièrement autour de la zone d'Aguéloc. Alors les Tchadiens sont-ils plus exposés que les autres forces de la MINUSMA ou sont-ils devenus les cibles prioritaires des djihadistes? Eh bien, pour répondre à la question de l'auditeur, en fait, il suffit de regarder une carte. Le Tchad aligne 2 compagnies à Kidal, ça fait à peu près 2 fois 150 hommes, donc ça fait 300 hommes. Mmh. Kidal, on sait que la situation là-bas est loin d'être calme, et surtout, il y a aussi un bataillon tchadien, donc ça fait 500 hommes supplémentaires dans la zone de Tessalit à Guéloque. Et là encore, c'est une zone où les groupes armés terroristes sont encore actifs. Vous avez vu effectivement les déclarations récentes du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous, qui s'inquiétait du retour des djihadistes dans le Nord Mali. C'est précisément en fait dans cette région-là. Cela dit, à Kidal, il y a aussi des Guinéens. À Tessalit, je crois que de mémoire, il y a aussi des Cambodgiens. Et ils n'ont pas été aussi activement ciblés. Alors peut-être qu'ils sortent moins, puisque les Tchadiens se déplacent plus, font plus d'opérations, plus de contrôle de zone. Alors peut-être aussi que la stratégie des groupes djihadistes est de s'en prendre en priorité à ces Tchadiens qui sont considérés comme les militaires les plus aguerris et donc peut-être aussi les plus dangereux du point de vue de leur adversaire.
Ouais, en tout cas, Djamena accuse l'ONU d'utiliser ses soldats comme boucliers pour les autres contingents placés plus en arrière. Ce que reproche le gouvernement tchadien, en fait, c'est que ces soldats sont déployés dans le nord depuis de nombreux mois et qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Cyril nous demandait, quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'on peut imaginer un départ des troupes tchadiennes de la MINUSMA?
Alors, on a entendu effectivement ces protestations très fortes du côté de Djamena, ces accusations très lourdes. C'est vrai que les Tchadiens sont en première ligne et la MINUSMA est en train d'essayer de trouver une solution, d'essayer de les soulager en mettant en place un système de rotation. En fait, ça serait normal que ça tourne, de manière à ce que ce soit pas toujours les mêmes qui se retrouvent les plus exposés. Les discussions durent depuis maintenant une bonne semaine. Pour l'instant, pas de changement concret sur le terrain, mais ça ne saurait tarder, indiqué hier une source militaire à RFI. Ils doivent trouver un accord. Les Tchadiens ne partiront pas. Deux mots sur les conséquences. Le départ des éléments les plus aguerris de la MINUSMA, ça serait quelque chose qui serait quand même assez grave. Les Tchadiens, c'est vrai, ne constitue pas le contingent le plus calme de la MINUSMA. On a évoqué sur cette antenne des mouvements d'humeur, des débuts de mutinerie, voire des expéditions punitives. Mais enfin, ils sont là et ils tiennent ces zones autour de Tessalit, Aguelok et Kidal, sachant que l'armée française, elle, s'est retirée en partie de ces zones. Il y a quelques dizaines de soldats seulement sous forme de DLAO, de détachement de liaison et d'appui opérationnel. Et puis, il y a aussi toute la symbolique. Reculer sous la pression des djihadistes, ça serait quelque chose que ces groupes armés djihadistes ne manqueraient pas d'exploiter. Et on peut considérer aussi qu'ils pourraient s'attaquer ensuite à des contingents considérés comme un peu plus faibles, qui remplacerait les Tchadiens. Donc il faudra regarder avec attention qui assurera la relève des Tchadiens et à quelle fréquence.
À suivre donc. En tout cas, Djamena a donné une semaine à la MINUSMA pour qu'elle apporte son contingent déployé sur le terrain le soutien nécessaire. Le Tchad n'a pas donné plus de précisions. On va suivre ça évidemment dans les prochains jours. Merci beaucoup Olivier Four d'être venu répondre à Cyril qui nous appelait de Yaoundé. 33 9 693 693 70. Plusieurs questions concernant la lutte contre Ebola en Guinée. Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan. Bonjour à tous les éditeurs du Crise de RFI.
Vous nous appelez de Lomé, au Togo. Soyez bienvenus, on vous écoute.
Merci. En fait, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé dans le village de Womé, en Guinée, avec l'assassinat des 8 sensibilisateurs anti-Ebola. Alors, pourquoi une telle réaction des villageois dans l'un des pays les plus touchés par la crise et depuis 8 mois censé connaître l'importance de cette séance de sensibilisation? Est-ce que cela est dû au manque de sensibilisation depuis le début de la crise?
Alors, Olivier Roger, qui est de retour de Guinée, est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour Jacques.
Merci d'être avec nous. Des événements qui ont secoué la localité de Womé, dans le sud du pays. On va revenir sur les faits. Les faits remontent au 16 septembre. Que se passe-t-il ce jour-là?
Alors, ce jour-là, une délégation part de Nzéré-Corée, conduite par le sous-préfet et le gouverneur, avec des personnels de santé, des journalistes et des pasteurs, des prêtres. Et cette délégation se rend dans le village de Womé pour mener une opération de sensibilisation. À peine installés, les débats commencent à s'organiser et très vite, une foule hostile s'approche du lieu de débat, caillasse littéralement les personnes qui sont rassemblées sous un auvent. Les gens prennent la fuite et dans la fuite, malheureusement, certains véhicules arrivent à se faufiler entre cette foule en colère qui jetait d'ailleurs des tables et des morceaux de bois sur la route pour les empêcher de fuir, ce qui a fait dire ensuite au sous-préfet que c'était un véritable guet-apens. Malheureusement, Malheureusement, d'autres personnes n'ont pas pu fuir à temps et ont été littéralement lynchées par cette foule.
Donc 8 membres de cette équipe ont trouvé la mort.
8 membres ont trouvé la mort. Par la suite, les gendarmes sont arrivés 2 jours plus tard. Le village était déserté. Petit à petit, plusieurs personnes ont été interpellées, ceci dit en brousse notamment. Et la police, les autorités de gendarmerie ont pu arrêter au total 32 personnes.
Comment expliquer ce mouvement de colère de ces villageois face à une équipe qui vient tout simplement leur expliquer les précautions à prendre pour éviter de contracter le virus Ebola?
C'est un problème assez compliqué, surtout en Guinée forestière. D'abord, il faut savoir que Ebola, quelque part, est un véhicule à fantasmes. Et en Guinée forestière, bien évidemment, cette épidémie effraie les gens énormément. Les gens ont peur. Les gens ont peur des médecins. Ils ont peur des sensibilisateurs. Ils s'inquiètent. Ils se demandent pourquoi cette épidémie leur est tombée sur la tête. Et bien évidemment, on entend des histoires assez incroyables. Certains accusent les Blancs d'avoir propagé le virus. D'autres accusent leurs ennemis traditionnels, d'autres communautés. Bref, cette épidémie d'Ebola provoque d'énormes peurs. On l'a vu, par exemple, à Macinta, il y a 6 mois, lorsque
l'équipe d'MSF,
une équipe d'MSF a été contrainte de se replier de toute urgence parce que des jeunes menaçants s'approchaient du domicile où étaient logés les médecins. À Macinta et à Gekedou, Gekedou étant l'épicentre de cette épidémie, des efforts de sensibilisation ont permis de régler une grande partie de la situation. Et puis surtout, les gens se sont aperçus qu'après le départ des gens de MSF de Macinta, eh bien, on continuait à mourir dans les villages, notamment dans les villages reculés. Et les villageois eux-mêmes sont allés voir les médecins pour leur demander pardon et leur demander de revenir à Macinta. Ce qu'il faut comprendre avec Wamé, c'est qu'il n'y a jamais eu le moindre cas d'Ebola à Wamé. En revanche, ce que l'on sait dans cette zone qui est située non loin de Nzérékoré, c'est qu'il y a d'énormes tensions communautaires et ce depuis des décennies. Souvenez-vous qu'en juillet dernier, il y a un peu plus d'un an, à Nzérékoré, il y avait eu 250 morts au minimum dans des affrontements intercommunautaires. La tension est vive dans cette région de Nzérékoré. Les fantasmes ne concernent pas uniquement Ebola, mais on va dire qu'il y a assez peu de dialogue intercommunautaire, d'énormes tensions qui sont parfois attisées par les luttes politiques ou les luttes politiciennes dans cette région. Il y a un manque de confiance, il y a une impunité quasiment totale, et donc du coup, cela engendre un climat de psychose et de réaction violente sur laquelle est venue se greffer cette affaire d'Ebola. Il n'y a pas un seul cas d'Ebola dans le village de Wamé, et quand on vient sensibiliser, les gens tuent les sensibilisateurs. C'est donc qu'il y a un problème qui dépasse Ebola.
Ouais. Reste avec nous, Olivier Roger. Autre question après la mort donc de ces 8 personnes il y a 10 jours dans le sud de la Guinée. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour François, les députés de RFI.
Vous êtes à Franceville au Gabon, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Oui, alors...
Allô? Alors, on a un problème de réseau téléphone. Je vais me faire le porte-parole, puisque heureusement pour moi, le standard m'a remis vos questions. Les auteurs de ces crimes ont-ils été arrêtés? Et quels dispositifs de sécurité ont mis en place les autorités pour éviter que ce phénomène se généralise? Vous nous disiez tout à l'heure que 32 personnes avaient été interpellées déjà.
32 personnes ont été interpellées. Et puis, ce qui est frappant, c'est que les autorités sont allées, se sont rendues à Wamé avec énormément de prudence. Plusieurs ministres y sont allés, des ministres notamment issus de la forêt. Bien évidemment, il s'agit de retrouver les auteurs et le ministre de la Justice a insisté sur le fait qu'il fallait arrêter ces auteurs, les traduire en justice. Il faut que justice soit faite et que l'impunité se termine. Ceci dit, les autorités veulent y aller avec beaucoup de prudence et beaucoup de diplomatie, pourrait-on dire, pour éviter justement un embrasement dans cette région extrêmement tendue où, je vous l'ai dit, il y a un an, 250 personnes trouvaient la mort dans des affrontements intercommunautaires. Il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu. Donc les autorités semblent décider à faire les choses de façon raisonnée, raisonnable, tout en, bien évidemment, tout en enquêtant pour arrêter les auteurs. On verra donc à l'épreuve des faits si ce contrat est rempli. Ce qui est évident, c'est que il faut aussi, dans la région de Nzérékoré et dans cette région de Wamé, il faut aussi renouer le dialogue, éviter de propager de fausses informations, éviter de propager des fantasmes. On a lu dans la presse guinéenne que certaines personnes songeaient à retirer à Wamé son statut de sous-préfecture. Tout ça est faux. Les autorités assurent le contraire. Il faut au contraire dialoguer, il faut aller sur place et surtout continuer cette sensibilisation sur l'épidémie.
Olivier Roger, de retour de Guinée. Merci beaucoup Olivier d'être venu répondre à ces questions. 30 secondes, le temps de vous remercier à tous évidemment et de vous dire qu'on revient dans 10 minutes après le point complet sur l'actualité. Et notre débat du jour qui sera consacré aujourd'hui à la gouvernance en Afrique avec la publication en début de semaine du rapport très attendu de la Fondation Mo Ibrahim. 33 9 693 693 70.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.
Priorité santé.
Claire Hédon vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Aujourd'hui,
à l'occasion d'Octobre Rose, nous ferons un point sur les traitements et la prévention du cancer du sein.
Demain,
comment les militaires victimes de blessures sont-ils pris en charge en France ?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé,
Claire Hédon,
du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU.
RFI.